Je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu. Nous lirons les 10 premiers versets. Il s'agit de la résurrection de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, le dimanche, c'est pas le lundi, le sabbat étant le samedi, Marie-Madeleine et l'autre Marie, que l'on rencontre au chapitre précédent, au moment de la crucifixion, allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclat, et son vêtement blanc comme la neige, comme l'éclair, pardon, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit : Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit : Soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Voilà, ce texte nous servira juste d'introduction et j'aimerais que nous le considérions pas seulement comme un texte historique, la mort et la résurrection de Jésus, un fait historique, Jésus est vraiment ressuscité, mais aussi comme un texte qui nous permet d'avoir un autre regard sur la mort et en particulier sur la tombe. Jésus n'est plus ici, il est ressuscité. Il ouvre une ère nouvelle qui concerne tous nos morts ou notre regard sur la tombe et sur la mort. Et puis, peut-être une petite remarque en passant, ce sont les vivants qui sont les gardes, qui deviennent comme morts, et ce sont les morts ou le mort, Jésus, qui lui est vivant. Et nous avons ici comme un renversement des choses et aussi un regard, encore une fois, tout à fait différent sur la vie et sur la mort. Lorsqu'un personnage important meurt, alors on lui consacre plusieurs colonnes dans les journaux. Là encore, peut-être, j'ouvre une parenthèse, le grand historien réformé qui a écrit énormément sur la réforme, mais pas seulement, Pierre Chaunu, est décédé ces jours derniers. C'était un immense bonhomme et il a eu donc plusieurs colonnes dans les journaux. Quand il s'agit d'un personnage d'État, un homme d'État, il y a parfois plusieurs jours de deuil, et s'il entre dans l'histoire, ses cendres seront transférées au Panthéon, qui, comme chacun sait, est un superbe mausolée à Paris. Et s'il est encore plus célèbre, comme Lénine, comme Mao, ou même comme le curé d'Ars, on va l'embaumer, le mettre dans une châsse vitrée, et des centaines, des milliers de personnes vont défiler devant sa dépouille. De temps en temps, on l'enlèvera de sa châsse vitrée pour le dépoussiérer un peu et puis pour le remettre de nouveau à la vue de tous ceux qui veulent le voir encore. Ce qui veut dire que les hommes ont toujours accordé beaucoup d'attention aux morts, pas à la mort, mais aux morts. Peut-être avez-vous vu, mais en image seulement, le fameux Taj Mahal. Le Taj Mahal, ça fait partie des 7 merveilles du monde. Il est en lui-même un mausolée. Un mausolée à l'art extrêmement raffiné, avec des pierres précieuses, avec beaucoup de marbre. Mais en réalité, il est une preuve d'amour. Une preuve d'amour colossale bâtie dans le marbre blanc, scintillant dans le soleil indien, changeant de couleur selon les heures du jour. Mais c'est une preuve d'amour tragique. Un empereur indien, je ne sais plus son nom, mais c'est peut-être pas très important, a perdu sa femme, qui est décédée après lui avoir donné 14 enfants. Et pour preuve d'amour, il lui a construit ce magnifique mausolée qui s'appelle le Taj Mahal. Sa tristesse fut telle que ses cheveux devinrent blancs en une nuit. Et par amour, il fit mener à bien ce projet insensé, lui offrir le plus beau des mausolées, et les travaux durèrent 17 ans. Ce Taj Mahal, il était musulman, est un des monuments musulmans les plus importants du monde. Il y a d'ailleurs deux mosquées, ou une vraie et une fausse, qui le jouxtent. Voilà donc un homme qui avait tellement de douleur qu'il a dépensé une fortune colossale pour faire un tombeau magnifique à sa femme décédée. Les Égyptiens construisaient des pyramides qui sont des monuments funéraires aux pharaons. Et nous, on construit ni Taj Mahal, on n'en a pas les moyens, ni pyramides, on n'en a sans doute pas les décennies ou les siècles pour construire les pyramides, mais nous construisons des caveaux, des monuments funéraires ou des jardins où il fait bon se promener. Lors d'un voyage en Pologne, il y a quelques années, en cette période de l'année, où la nuit tombe plus tôt que chez nous, j'ai été surpris de voir que dans les cimetières, toutes les tombes étaient recouvertes de petites bougies que le vent faisait vaciller. C'était un spectacle formidable, très joli, dans la nuit qui était tombée là sur la journée, la nuit déjà de l'automne ou de l'hiver. Plein de petites bougies qui brillaient dans le noir. Ce n'est pas notre coutume à nous. Nous, c'est les chrysanthèmes qui envahissent nos cimetières et qui font la joie ou les affaires des fleuristes. En mal de chiffre d'affaires en cette période de crise, ça leur fait du bien, tant mieux pour eux. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour pour nos bien-aimés qui ont quitté cette terre ? Chaque pays a sa tradition qui change selon les générations. Mais qu'en dit la Bible ? Est-ce que la Bible nous parle aussi de tradition funéraire ? Eh bien oui. Et je dirais dans un premier temps que la Bible respecte les traditions humaines jusqu'à un certain point. À l'époque de la Bible, donc il y a fort longtemps, dans la Palestine d'autrefois, dans le Moyen-Orient d'autrefois, parce que ces coutumes étaient partagées par d'autres peuples, à l'annonce d'un décès, on déchirait ses vêtements. Pourtant, ça coûtait cher, un vêtement. On marchait pieds nus. On se voilait la moustache. Je suppose que ceux qui avaient la barbe se voilaient la moustache. Alors, Lou, tu sais ce qu'il te reste à faire la prochaine fois. Ou peut-être même la figure entière. On se rasait la tête. Il y a peut-être quelques têtes rasées parmi nous, mais ça n'a pas la même signification. On renonçait à se laver, ça devait faire plaisir aux enfants, et à se parfumer. Certains se couvraient la tête de terre, se roulaient dans la poussière, s'asseyaient dans la cendre, et on portait le deuil pendant 7 jours ou 30 si les personnages étaient importants, comme Moïse ou comme Aaron, par exemple. Bien nombre de ces rites étaient communs aux peuples du Moyen-Orient, mais certaines démarcations faisaient la différence entre les peuples païens avoisinant. Dieu, d'une certaine façon, a accepté ces rites qui étaient traditionnels, qui faisaient partie de la tradition, mais refusait ce qui le déshonorait en tant que Dieu. Par exemple, les mutilations, comme les incisions, étaient interdites dans la Bible. Certaines pratiques incantatoires, c'est-à-dire qu'on prononçait des paroles soi-disant magiques, qui étaient adressées à des dieux et donc qui devaient avoir des répercussions sur le monde des vivants. Se raser les coins de la barbe, c'était interdit. Probablement que ça avait une signification païenne. Alors j'ai lu aussi « se raser entre les yeux ». Alors je ne sais pas si on peut se raser entre les yeux, voilà. Ou se tonsurer. Ça existait déjà à cette époque. C'était interdit. Probablement qu'il y avait là des raisons qui appartiennent au monde païen. Les rites de deuil étaient particulièrement limités pour les prêtres, dont la fonction était de s'approcher de Dieu, source de la vie. Il y avait là une signification spirituelle. Pour les prêtres, il fallait limiter la période et les rites de deuil. Et n'oubliez pas que dans le Nouveau Testament, nous sommes tous prêtres. Dieu étant entièrement du côté de la vie, tout contact avec la mort rendait rituellement impur. Le séjour prolongé à proximité des sépulcres était considéré comme typiquement païen. Le sacrifice pour les morts était interdit. Et la plupart des sépultures étaient de simples tombes dans la terre, soit qu'on faisait tout simplement un trou, puis on mettait la personne dans un linceul, ou alors il y avait des tombeaux taillés dans le roc, mais ça c'était réservé pour les riches. On érigeait des stèles pour perpétuer le souvenir d'hommes connus. Les évangiles mentionnent les pleureuses. Il y avait des pleureuses professionnelles qu'on louait lors des enterrements, justement, pour accentuer les pleurs. La lamentation accompagnait le cortège funèbre. Dans l'histoire du christianisme, au tout début, là, je vais vous citer un exemple à la fin du IIe siècle ou pendant le IIIe siècle. L'enterrement était considéré par les chrétiens comme l'affaire de l'ensemble de la communauté chrétienne. Un homme qui s'appelle Aristide d'Athènes, qui est né en 130 ou en 140, écrit au sujet d'un enterrement chrétien « Lorsque l'un de ses justes trépasse, ils se réjouissent, la communauté chrétienne, et remercient Dieu et escortent sa dépouille comme s'il se rendait simplement d'un lieu à un autre. » Voilà, il y a une grande différence, une grande transformation dans les rites chrétiens au début du christianisme, apportés par cette espérance, par ce renouveau opéré par Jésus ressuscité des morts. Et ce petit survol historique m'amène à dire que l'Écriture n'est pas contre les coutumes locales, donc je dirais aujourd'hui elle n'est pas contre les chrysanthèmes, tant que ces coutumes ne revêtent pas un caractère païen. J'aimerais maintenant apporter quelques points qui montrent la différence. La différence de ce que nous montre la Bible dans notre façon d'appréhender la mort et nos morts en particulier, et avec ce que fait le monde, ceux qui sont aussi dans des traditions chrétiennes, mais qui, je crois, s'éloignent du message, de l'enseignement de la Bible. La Bible n'encourage pas le culte des morts. L'expression « il se coucha avec ses pères » revient régulièrement dans l'Ancien Testament au sujet des personnages dont elle nous parle, hein, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, les rois d'Israël. Quand ils meurent, quand ce personnage meurt, l'expression « il se coucha avec ses pères nous montre, nous dit tout simplement, on peut dire que c'est une façon de dire qu'il a été enterré et qu'il a rejoint tous ceux qui l'ont précédé dans la mort. Tout cela montre que ces personnages bibliques partagent la condition humaine qui consiste à mourir et à être enseveli. Même Salomon, et pour reprendre l'expression de Jésus, dans toute sa gloire, avec sa richesse immense, Salomon ne s'est pas fait construire un mausolée digne de sa richesse. L'expression « il se coucha avec ses pères » est utilisée pour Salomon comme pour tous les autres personnages de la Bible. On ne peut pas faire plus simple. Il n'y a rien concernant les enterrements ou la façon d'honorer la mémoire d'un mort aussi célèbre fut-il comme Salomon. Donc la Bible est très discrète, très simple, et elle n'encourage pas le culte des morts. Ensuite, la Bible nous dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais qu'il est le Dieu des vivants. C'est ce que dit Jésus. Jésus dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais qu'il est le Dieu des vivants. Alors il ne veut pas dire par là que Dieu n'est pas le Dieu de ceux qui sont morts. Mais Jésus ajoute, car pour lui, tous sont vivants. Et Jésus veut dire par là que Dieu est toujours le Dieu de ceux qu'il a connus de leur vivant. Et il utilise cette formule, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants, en parlant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En disant que si Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il ne veut pas dire par là qu'il était le Dieu d'Abraham et d'Isaac quand Abraham, Isaac et Jacob étaient vivants sur cette terre, mais qu'il l'est toujours maintenant qu'ils sont morts. Parce que pour lui, pour Dieu, Abraham, Isaac et Jacob sont toujours vivants. Et il est donc important de considérer nos morts sous le regard de Dieu, avec le même regard, c'est-à-dire de voir que nos morts vivent toujours en Dieu. C'est leur corps qui est emprisonné dans la tombe, ou qui se détruit, ou qui va finir par disparaître dans la poussière. Aussi, s'il nous arrive de nous recueillir sur la tombe d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui a appartenu au Seigneur, eh bien, nous pouvons être sûrs que ce qui est là dans la terre, ce n'est que le corps, ou même un corps déjà bien détruit, mais que la personne elle-même continue à vivre en Dieu, puisque Dieu est le Dieu de ceux qui sont vivants. Le livre de Job, maintenant. Vous connaissez cette histoire tragique de Job. Job perd tous ses biens matériels. Il perd tout son cheptel, ses animaux domestiques. Il perd ses serviteurs et il perd ses enfants. Ils sont emportés par une sorte de tsunami qui, lui, Job, le laisse à demi-mort. Ou aux trois quarts morts. Et à la fin de sa vie, Job retrouve ses biens. Il retrouve le double de tout ce qu'il avait perdu, le double de son cheptel. Mais il ne retrouve pas le double de ses enfants. Il retrouve le même nombre d'enfants qu'il avait avant ce tsunami. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que ses enfants, il ne les avait pas complètement perdus. Quoique morts, ils étaient vivants, comme Abraham, Isaac et Jacob. Et dans ce sens, il avait le double, puisqu'ils n'étaient pas complètement perdus dans la mort. Apocalypse, chapitre 14, verset 13, nous dit « Heureux les morts ». Ça semble contradictoire. Heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur dès maintenant. Heureux les morts, dès maintenant. Alors on peut s'interroger sur le sens de ce « dès maintenant ». Est-ce que c'est à partir de maintenant que les morts sont heureux? Ou est-ce que c'est à partir du moment où ils sont morts, hein, dès qu'ils sont morts, qu'ils sont heureux? Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux les morts, ceux qui sont morts unis au Christ ressuscité, sont heureux dans un éternel maintenant. Et personnellement, je préfère relier ce dès maintenant aux morts. Heureux dès que la personne meurt, elle est heureuse, elle est dans la présence de Dieu, et ses travaux, ses œuvres les suivent. Cette personne se trouve dans la présence glorieuse de Dieu. Dans l'Écriture, il n'y a pas de purgatoire. Et comme l'a dit tout à l'heure très justement Pierre-Yves, pas besoin de purification supplémentaire. C'est vrai que la théologie catholique a cette explication de dire « mais il faut se purifier ». J'ai entendu parfois, une fois, quelquefois, l'image de quelqu'un qui est en vêtements de travail, en vêtements sales, et s'il a un rendez-vous chez le président de la République, par exemple, eh bien, il rentrera chez lui, il prendra une douche, il changera de vêtements, il mettra une chemise blanche et un costume, parce qu'il a un rendez-vous important. Alors, j'ai entendu cette explication catholique disant, mais c'est pareil pour Dieu, il faut un temps de préparation, c'est le purgatoire. Alors là, bien sûr, c'est une image, spirituellement parlant, on prend une douche, on change de vêtements, etc. Mais c'est oublié. Et l'oubli est quand même de taille, que Jésus nous a donné déjà un vêtement neuf, un vêtement nouveau, un vêtement blanc, et qu'il nous a purifiés de tous nos péchés. Et que quand nous venons devant le trône de Dieu, devant la gloire du Seigneur, c'est en tant que purifiés de tous nos péchés par Jésus-Christ, ayant revêtu un vêtement blanc, ayant déjà été lavés de nos péchés. Ce sont des expressions qu'on utilise, que la Bible utilise aussi pour parler de notre condition de racheté en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que mourir, c'est un gain, c'est d'être avec le Seigneur. Pour la personne qui est partie, bien sûr, pas pour ceux qui restent, mais pour la personne qui part, c'est un gain, c'est d'être avec le Seigneur. Et je crois que c'est ainsi que nous devons considérer ceux qui nous ont précédés dans la gloire de notre Dieu. Et je crois que c'est important en cette période de la Toussaint, et peut-être à chaque fois que nous allons sur la tombe d'une personne qui nous est chère, d'avoir ces pensées dans notre tête et de ne pas voir simplement la personne qui nous a quittés, mais de voir là où la personne se trouve dans la présence de notre Dieu. Notre espérance n'est pas attachée à cette terre, mais notre espérance est attachée au royaume de Dieu. Nous sommes des étrangers, des résidents temporaires sur la terre, des immigrants comme Abraham. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 13, la première Épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, et c'est une reprise de Genèse, chapitre 23. C'est ce que dit Abraham, hein, Abraham qui était un voyageur et qui lui aussi dit à un roi, je ne sais plus si c'était le roi des Hittites ou peu importe, en lui disant « mais moi je suis un étranger, un immigrant sur la terre ». Et l'Épître aux Hébreux nous dit parce qu'il croyait, à un autre royaume, à une autre cité. Et là, je vous lis Hébreux chapitre 11, verset 8. « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vit s'établir dans la terre promise comme dans une... qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. » Ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Telle devrait être aussi notre perspective, hein, notre, notre attente, notre vie sur cette terre, attendre cette cité dont Dieu est l'architecte et qui a de solides fondements. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille se désintéresser des affaires de ce monde, mais cela veut dire que notre but est ailleurs. Cela veut dire que nous avons une espérance qui dépasse ce monde-ci. Et puis, cela veut dire aussi que de toute façon, tôt ou tard, il nous faudra quitter cette terre. Quelle espérance formidable de savoir qu'un jour nous serons avec le Seigneur pour l'éternité dans son royaume. Notre espérance de vie, même si elle est un peu rallongée aujourd'hui, est très courte. Qu'est-ce que c'est que 80 ans, 90 ans, 100 ans ? C'est rien du tout. Il nous faut donc vivre cette période avec la sagesse de Dieu dans cette espérance. Je cite encore ce philosophe Luc Ferry, non pas Jules Ferry, mais Luc Ferry que j'ai cité dimanche dernier, à propos de la mort, dans son livre « Apprendre à vivre », traité de philosophie à l'usage des jeunes générations. Il tutoie son lecteur parce qu'il s'adresse à des jeunes. Et il écrit ceci, « Ouvre un dictionnaire et tu verras que le salut, salut entre guillemets, désigne d'abord et avant tout le fait d'être sauvé, d'échapper à un grand danger ou à un grand malheur. Fort bien. Mais à quelle catastrophe, à quel péril effrayant les religions prétendent-elles nous faire échapper ? Tu connais déjà la réponse. C'est de la mort, bien sûr, qu'il s'agit. » Puis un petit peu plus loin, c'est avec la chute, donc je cite toujours Luc Ferry, c'est avec la chute, la sortie du paradis premier, où nos deux humains vivaient heureux, sans peur aucune, en harmonie avec la nature comme avec Dieu, que les premières formes d'angoisse apparaissent. Et de citer Montaigne, qui nous assure que philosopher, c'est apprendre à mourir. Quelle sérénité pour le chrétien, quelle certitude! Et avec l'apôtre Paul, nous pouvons dire aux morts, où est ta victoire ? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit au fond de notre cœur que nous avons cette certitude, cette assurance que non seulement Jésus a vaincu la mort, qu'il est ressuscité, mais qu'il nous donne aussi la vie éternelle. Alors en conclusion, je dirais... avec Jésus, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Autrement dit, vivez pour que nous soyons utilisés par le Seigneur dans l'attente de son royaume. Et puis avec l'apôtre Paul, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et puis avec l'apôtre Pierre, je dirais, lorsque le souverain pasteur apparaîtra, c'est-à-dire Jésus, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est juste un petit peu plus loin, hein, mais généralement on ne met pas les deux choses ensemble. Mais en relisant ce texte, en le mettant ensemble, je trouve que c'est formidable. Hein. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et puis encore avec Jésus au matin de Pâques, Jésus dit à Marie, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Oui, pourquoi pleures-tu ? Je suis ressuscité, dit Jésus. Et lorsqu'elle a reconnu Jésus, Jésus lui dit, « Va vers mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Quel magnifique message à partager, à dire autour de nous. Surtout en cette période de tristesse de la Toussaint, où les gens regardent en arrière, au passé, perdu. Mais combien il est important de regarder au Seigneur et à sa victoire. Amen.